Bonjour, je continue une série de messages qui a pour thème comment vivre en temps de crise, vivre l'essentiel avec Dieu. L'essentiel que je vous ai proposé de vivre est de faire de l'encouragement un style de vie. Je vais maintenant parler de l'importance de nos actions pour encourager. Naturellement, plusieurs résumeraient l'encouragement par des mots qui font du bien. Mais l'encouragement, ce ne sont pas que des mots, ce sont aussi des actes concrets. Dans la Bible, dans 1 Jean chapitre 3, verset 18, il est écrit « Mes enfants, que votre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. » L'encouragement comme l'amour ne pourront jamais se limiter à de belles paroles. L'amour véritable se manifeste par des actes concrets. De même, l'encouragement se manifeste aussi par des actes concrets. Voici l'un des textes les plus beaux de toute la Bible. C'est Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. C'est énorme. Dans ce texte, c'est la grâce de Dieu en Jésus-Christ qui nous sauve. Il nous suffit de croire. Nous ne méritons rien. La vie éternelle est un cadeau que Dieu nous a fait. Si nous demandons pardon à Dieu pour nos fautes et plaçons notre foi en Jésus-Christ, nous sommes sauvés de nos péchés, de la mort et de l'enfer. Mais la suite du texte est importante. Il est dit que nous avons été créés en Jésus-Christ. Pourquoi ? Pour une vie riche d'œuvres bonnes. Nous ne sommes pas sauvés pour quelques bonnes œuvres, mais pour une vie riche d'œuvres bonnes. Cela me fait penser au jour où Jésus a dit « Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. » Pour expliquer son propos, Jésus a donné deux images. Celle d'une ville sur une colline pour dire qu'il est normal qu'on la voie. Puis il a donné l'image d'une lampe pour dire qu'elle doit être mise en évidence pour éclairer toute une maison. Il dit ensuite ceci dans Matthieu chapitre 5 verset 16. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. C'est fort comme enseignement. Jésus veut que ceux qui le suivent fassent le bien de manière étonnante, inhabituelle, qui étonne au point de pousser les gens à en attribuer la gloire à Dieu notre Père. Mes amis, si nous appartenons à Dieu, nous ne devons pas juste faire le bien de temps en temps ou quelques bonnes œuvres. Non, le bien que nous faisons va bien au-delà de la moyenne. Le bien que nous faisons est plus que des actions par-ci, par-là. Faire le bien doit devenir un mode de vie. De même, nous ne faisons pas juste quelques bonnes œuvres. Nous devons mener une vie riche d'œuvres bonnes. Et tout cela par la puissance de Dieu qui agit en nous. Il y a de quoi être repris ici. Question. Est-ce que nous faisons le bien au point que notre conjoint, notre enfant, ou nos parents, nos familles, nos amis, collègues de travail et voisins en sont étonnés et louent Dieu qui agit en nous? Si ce n'est pas le cas, demandons pardon à Dieu, demandons-lui d'agir en nous avec puissance pour que nous ne soyons plus centrés sur nous-mêmes, mais afin que nous nous mettions pleinement au service des autres. Maintenant, j'aimerais donner plusieurs manières d'encourager les autres par nos actions. Je vais être très, très pratique. Premier point, encourageons par l'écrit. Nous pouvons faire tellement de bien en écrivant des mots qui encouragent. Une bonne partie du Nouveau Testament dans la Bible est composée de lettres que les apôtres ont écrites pour encourager les églises. Dieu s'est servi de ces lettres non seulement pour encourager les premières églises de l'époque des apôtres, mais aussi toutes les églises du monde entier jusqu'à aujourd'hui. L'impact de ces lettres est considérable. Ne nous privons pas de l'écrit pour encourager les autres. Je me souviens que pendant un séminaire, une personne nous a dit à quel point les gens autour de nous souffrent, même si nous ne le remarquons pas tout de suite. Chacun a ses combats et a besoin d'encouragement. Ça me fait penser à cette citation « Sous la carapace de chaque individu se cache une personne qui aspire à être soutenue et encouragée ». En entendant tout cela, j'ai eu un gros fardeau dans mon cœur pour plein de personnes que je connaissais. Pendant un temps de pause dans le séminaire, je me suis mis à écrire des SMS à ces personnes que je savais en avoir besoin. J'étais surpris du nombre de réponses reçues. Une personne a même désiré m'appeler pour parler de ses combats. Aujourd'hui, un simple SMS peut avoir énormément d'impact dans la vie des autres. Profitons de cet outil tout simple. Osons aussi écrire des lettres. Cela reste un outil tellement puissant. Récemment, une personne de ma famille nous a écrit, à Fanny et moi, une lettre d'encouragement en disant à quel point elle nous apprécie et pense à nous. C'était très touchant et encourageant. Écrire une lettre a un impact d'encouragement encore plus puissant que des SMS. Un autre point, encourageons en appelant par téléphone. La période de confinement nous a obligés à nous appeler les uns les autres et nous devons garder cette habitude. J'ose vous poser une question. Combien de personnes avez-vous appelé chaque semaine? Appeler quelqu'un paraît très basique, mais en parlant avec certaines personnes, j'ai pu entendre que ce n'était pas forcément quelque chose de naturel. Certains ont eu très peu de personnes qui les ont appelés dans la période de confinement. Comme quoi, appeler les autres reste quelque chose à développer. Et en particulier, appeler les personnes seules, celles qui ont peu ou pas du tout de famille. Attention à l'individualisme de notre société, car l'Église n'en est pas épargnée. Nous devons combattre contre cela pour une communion fraternelle plus forte. Relevons au moins ce petit défi que je vous propose. Appelons chaque semaine une à deux personnes que nous n'avons pas l'habitude d'appeler. Faisons-le sans grandes attentes, mais juste pour prendre des nouvelles et s'encourager. Imaginez si dans une église locale, tout le monde appelait une à deux personnes différentes par semaine. Cela serait d'une grande bénédiction pour tous. Soyons les premiers à appeler une personne qui a besoin d'encouragement. Un autre point, encourageons par des gestes appropriés. Donner une tape sur l'épaule, faire un câlin, donner une accolade peut faire beaucoup de bien. Tout le monde ne sera pas forcément d'accord ou à l'aise de vivre cela, mais il y a bien plus de personnes qui en ont besoin que nous ne pouvons l'imaginer. Alice Gray a écrit « Il me semble que nous pensons rarement au toucher comme un moyen pouvant faire une différence dans la vie des autres. Pourtant, des chercheurs ont démontré qu'un toucher affectueux et doux peut avoir un profond impact positif, non seulement sur les enfants, mais aussi sur des personnes de tout âge. » Léo a écrit « Nous sous-estimons trop souvent la puissance du toucher, d'un sourire, d'une parole gentille, d'une oreille attentive, d'un compliment sincère ou du moindre petit acte de bienveillance qui ont tous le potentiel de transformer une vie. » Mes amis, soyons sensibles à ceux qui auraient besoin de gestes affectueux. Soyons aussi respectueux de ceux qui ne le veulent pas. Évitons de le faire aussi avec le sexe opposé pour éviter toute ambiguïté. Je me souviens avoir parlé avec un frère dans la foi. Il m'avait ouvert son cœur. Nous avons prié ensemble. Des larmes coulaient dans ses yeux. Je l'ai serré dans mes bras. Ce frère a été réconforté non seulement par mes paroles et la prière, mais aussi par mes gestes d'affection. J'ai entendu plusieurs témoignages de personnes, et peut-être vous aussi, qui ont reçu une accolade dans des temps difficiles et qui ont ressenti non seulement l'amour d'une personne pour elle, mais aussi l'amour de Dieu. C'était pour elle le témoignage de l'amour de Dieu pour elle. Un autre point, encourageons en rendant service. En octobre 2016, lors d'un week-end d'église, j'ai proposé de faire une soirée construite. Il fallait se mettre par petits groupes. Pendant 5 à 10 minutes, chaque petit groupe devait réfléchir à un sketch ou à un mime à jouer sur le thème de l'encouragement. Nous avons passé un excellent moment. Nous avons bien rigolé. Mais c'était aussi très instructif. Dans cette soirée, une chose m'a marqué. Je ne m'attendais pas du tout à voir cela. Un des petits groupes a mis en scène l'encouragement par le service. Il y avait l'aide pour faire des courses, pour faire le ménage, ranger la maison. Le service était pleinement présent dans ce sketch. Comme l'a écrit une des personnes de l'église lors d'un questionnaire, elle a écrit ceci, « Un des dons qui peut être un encouragement pour les autres, c'est le service. » Une autre personne a écrit que nous pouvons exercer l'encouragement dans toutes nos relations amicales, familiales, professionnelles ou dans l'église en nous mettant à leur service, en agissant avec amour. Dernièrement, j'ai entendu l'histoire d'un couple très éprouvé. L'épouse se battait avec des problèmes de santé et une dépression. Leur église locale a été d'une aide remarquable. Plusieurs personnes ont aidé pour garder les enfants, aider dans les tâches ménagères, etc. Mes amis, il est vraiment important d'apprendre à encourager en servant les autres. J'ai un jour aidé une personne découragée en faisant du rangement dans sa maison. J'étais impressionné de voir comment ce service lui a remonté le moral. Dès que nous entendons un besoin, soyons les premiers à servir les autres. Un autre point, encourageons en aidant financièrement et matériellement. Dieu a pourvu de manière extraordinaire à la formation que j'ai eue à l'Institut biblique de Genève pendant 4 ans avant de devenir pasteur. Je n'avais pas grand-chose pour mes études. Sans l'aide financière de plusieurs personnes, je n'aurais pas pu terminer ma formation. Il y avait des personnes que je connaissais et d'autres non. C'était pour moi un fort encouragement de la part des personnes, mais aussi de la part de Dieu. Il y a quelques années, une personne m'a impressionné par sa capacité à avoir aidé une famille dans le besoin. Elle a pris énormément de son temps pour regarder le budget de cette famille, au point d'avoir donné beaucoup d'argent afin qu'elle ne s'enfonce pas dans des dettes. Tout le monde ne peut pas faire cela, mais nous devons être disposés à utiliser notre argent ou nos biens pour aider les autres quand cela se présente. Il est important de rappeler que donner à ceux qui sont dans le besoin est une attitude normale pour tout croyant. La Bible dit dans Luc chapitre 12 versets 33 à 34 « Vendez ce que vous possédez et distribuez-en le produit aux pauvres. Fabriquez-vous des bourses inusables et constituez-vous un trésor inaltérable dans le ciel où aucun cambrioleur ne peut l'atteindre, ni aucune mythe l'entamer. » Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Jésus dit ici de ne pas amasser des biens sur cette terre, mais dans le ciel. Une des manières d'investir pour ce qui est éternel, c'est d'utiliser nos biens pour ceux qui sont dans le besoin. Nos biens doivent être utilisés pour des actions d'amour et d'encouragement afin de faire avancer l'œuvre de Dieu dans le monde. Cela demande de lutter contre le matérialisme qui est si présent aujourd'hui. On veut toujours plus alors que la Bible nous invite au contentement et à la générosité. Apprenons à vivre dans le contentement et quand il y a un besoin, soyons les premiers à donner financièrement et matériellement. Rappelons-nous ce texte très encourageant dans Actes 20, 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Un autre point, encourageons en pratiquant l'hospitalité. Exercer l'hospitalité, c'est accueillir l'étranger, inviter chez soi, partager notre vie, famille, foyer, ressources financières et matérielles, nourriture, temps et intimité. C'est aussi partager un repas, apporter une aide concrète. J'aimerais me concentrer sur l'invitation des personnes chez soi en étant pleinement disponible pour l'autre afin de l'encourager. C'est très encourageant de donner à une personne un temps de qualité autour d'un repas, d'un goûter ou d'un café. Des personnes qui ont étudié l'impact de l'hospitalité vont bien plus loin que moi. Distin Willie et Brandon Clément sont convaincus que l'hospitalité chrétienne est capable de changer le monde. Voici une citation de leur livre qui m'a bousculé. Nous avons renoncé à l'espoir que nous pouvons vraiment changer le monde, tout simplement parce que nous nous demandons quand nous pourrions le faire. Il ne nous reste pas beaucoup de temps entre le lever, le travail quotidien, les repas et la préparation du lendemain. Mais si nous vous disons que vous pouvez changer le monde à partir de votre propre habitation, peut-être désirez-vous participer à la mission divine, mais vous n'avez aucune idée de la forme que cette mission pourrait prendre dans la vie ordinaire. Dans ce cas, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Vous possédez déjà l'arme secrète qui transformera votre manière de concevoir votre engagement dans la mission divine. Cette arme secrète qui permet à l'évangile de se répandre et de progresser, c'est l'hospitalité. Vous pouvez la pratiquer aussi bien dans une maison individuelle que dans un appartement, un dortoir ou un gratte-ciel. Ce texte souligne que le côté ordinaire d'ouvrir notre maison à d'autres peut être un puissant outil dont Dieu se servira pour changer les vies. Mes amis, nous sommes si peu conscients, et moi le premier, du puissant impact de l'hospitalité que nous négligeons trop souvent les occasions d'inviter chez nous des personnes pour qu'elles soient encouragées. La Bible le dit clairement, dans Romains chapitre 12, verset 13, « Les besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. » Encourager quelqu'un par l'hospitalité, c'est être capable de dire « Est-ce que tu veux passer à la maison pour prendre un café ou un repas et discuter ensemble ?» J'aimerais beaucoup te voir pour t'encourager et prier avec toi. Invitons chez nous pour encourager. Les fois où ce n'est pas possible, nous pouvons aussi inviter au restaurant ou dans un café, ce qui peut aussi avoir un impact d'encouragement. Soyons les premiers, les amis, à inviter à des temps conviviaux pour encourager. Un autre point, encourageons en rendant visite. Il est arrivé plusieurs fois que des personnes de l'église ont rendu visite à d'autres qui étaient découragés. Elles sont venues pour écouter, prier, encourager. Elles venaient aussi avec des choses à manger. Les personnes découragées ont été touchées par la mobilisation de ces personnes de l'église dans ce qu'elles traversaient. Cette manière de faire ne plaît pas à tout le monde, mais dans certaines cultures, ça a un impact fort d'encouragement. Nous pouvons aussi proposer à une personne de venir la voir ou de se promener à proximité de chez elle pour discuter. Le plus important est de donner de notre temps à l'autre pour un temps d'écoute pour l'encourager. Un autre point, encourageons en offrant des cadeaux. J'ai trouvé génial ce qu'une personne fait après des événements. En fin d'année, elle offre à chaque personne de l'équipe d'organisation un cadeau pour les remercier. Apporter des fleurs ou tout autre cadeau à une personne seule, malade, chez elle ou à l'hôpital encourage énormément. Et le cadeau n'a pas besoin de coûter très cher. Ce qui compte, c'est le geste que nous faisons. Alice Gray a écrit un beau témoignage dans son livre qui s'intitule « Des gestes qui touchent le cœur ». Un vendredi, elle a voulu acheter un bouquet de fleurs. Mais elle a senti un petit pincement sur son cœur qui semblait dire « Achète-en deux ». Elle a donc choisi un second bouquet. Elle est arrivée avec ses achats derrière une femme âgée. Elle a senti un second petit pincement dans son cœur. Les fleurs sont pour elle. Elle a pris un des bouquets, elle a abordé la femme et lui a dit doucement « Excusez-moi, mais je crois que Dieu veut que vous ayez ces fleurs. » Lorsque la femme s'est retournée, son visage ridé était magnifique et des larmes coulaient dans les plis formés par son sourire. Oh mon Dieu, je ne sais pas quoi dire. Quel beau cadeau! Mon mari avait l'habitude de m'apporter des fleurs, mais je n'en ai pas eu depuis qu'il est mort il y a 4 ans. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage et je me sentais si seul. Vous ne pouvez pas savoir à quel point cela me touche. Mes amis, encourageons en offrant des cadeaux. Un autre point, encourageons en célébrant des événements. Faire une fête pour dire merci, pour des réussites, pour un anniversaire ou pour toute autre chose peut être très fort en encouragement. Ne passons pas à côté de l'impact fort que ça a sur les autres en nous réjouissant avec eux par une fête organisée. Une église locale a pris l'habitude de célébrer les victoires et de remercier tous les membres de l'église par des événements. Cela amène beaucoup d'enthousiasme et d'impact à la vie de l'église. Soyons les premiers à encourager par les événements. Un autre point, encourageons avec ce que nous sommes et ce que nous savons et aimons faire. Nous avons vu jusqu'ici les différentes manières d'encourager par nos actions. Mais en fait, chacun est doué dans l'une ou l'autre de ses actions. Je sais que des gens sont doués pour faire des gâteaux, offrir des repas, appeler les gens, écrire des cartes, faire des cadeaux, rendre visite, ouvrir leur maison, aider dans les tâches ménagères, faire du repassage, s'occuper des espaces verts, garder les enfants, etc., etc. Soyons sensibles aux besoins des autres et sachons aussi être un encouragement avec ce que nous sommes, ce que nous savons faire et aimons faire. J'aimerais finir en disant quelque chose de très important. Tout ce que nous faisons pour encourager, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Non pour briller nous-mêmes, mais pour la gloire de Dieu. Et par amour pour Dieu. J'ai entendu récemment une personne qui sert les autres de manière remarquable, mais qui est découragée car elle ne reçoit pas grand-chose en retour. Je peux bien comprendre cette personne. Servir les autres exige de faire des sacrifices. Et nous devons apprendre à servir sans attendre en retour. Il est normal d'avoir quand même envie qu'il y ait réponse. Mais nous devons apprendre à servir, non dans le but de recevoir en retour, mais pour la gloire de Dieu. Alors, je vous invite à garder 2 choses en tête. Nous nous donnons à fond pour encourager par nos actions parce que, premièrement, nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes aimés de Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 14, l'amour du Christ nous étreint, nous pousse à l'action. Stud, un champion d'athlétisme britannique, a dit ceci, si Jésus-Christ est Dieu et mourut pour moi, alors aucun sacrifice n'est trop grand pour lui. Mes amis, encourageons parce que nous sommes aimés de Dieu. Deuxièmement, nous nous donnons à fond pour encourager par nos actions parce que nous aimons Dieu. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 19, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Oswald Chambers a frappé fort quand il a écrit ceci. Si vous consacrez votre vie à servir vos semblables, vous connaîtrez à coup sûr des tribulations et des chagrins car vous ferez face à plus de basses ingratitudes de leur part que de la part d'un chien. Vous devrez affronter de la méchanceté et de l'hypocrisie, et si c'est l'amour qui motive votre service, vous vous épuiserez dans le combat que vous menez. Mais si la raison profonde de votre service est votre amour pour Dieu, ni ingratitude, ni péché, ni diable, ni ange ne vous empêcheront de servir vos semblables, quelle que soit la manière dont ils vous traitent. Vous pouvez aimer votre prochain comme vous-même, non parce que vous avez pitié de lui, mais parce que vous êtes véritablement centré sur Dieu. Mes amis, soyons toujours plus conscients de l'amour de Dieu pour nous et vivons par amour pour lui. Nous arriverons ainsi à servir notre prochain, quelles que soient les circonstances. Je vais maintenant conclure. pour un fort impact d'encouragement dans la vie des autres, encourageons par nos actions, encourageons par l'écrit, en appelant par téléphone, par des gestes appropriés, en rendant service, en aidant financièrement et matériellement, en pratiquant l'hospitalité, en rendant visite, en offrant des cadeaux, en célébrant des événements avec qui nous sommes et ce que nous savons et aimons faire. Et enfin, faisons tout cela pour la gloire de Dieu et aussi parce que nous l'aimons. Amen. Je vous invite maintenant à prier. Notre Dieu, merci pour ton amour manifesté à la croix. Sans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous ne pourrions pas du tout être sauvés du péché, du mal et de l'enfer. Un immense merci, Jésus-Christ, de nous avoir sauvés pour la vie éternelle. Nous te demandons encore aujourd'hui de toucher tous ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec toi, qu'ils placent leur foi en Jésus-Christ, reçoivent le pardon des péchés et une relation rétablie avec toi et la vie éternelle. Notre Dieu, que ton amour continue à nous bouleverser et nous pousse à encourager par nos actions. Pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas agi par amour pour encourager. Rends-nous encore plus sensibles à ton Saint-Esprit en nous et aussi à ceux qui nous entourent pour encourager par nos actions. Quand nous voyons un besoin, que nous soyons les premiers à aider, à faire du bien, à encourager. Continue à nous utiliser pour être des instruments d'encouragement, de guérison et de changement dans la vie des autres, afin qu'ils soient eux aussi des instruments d'encouragement pour les autres. Te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ. Oh, merci notre Dieu pour ton œuvre. Amen. Mes amis, encourageons par nos actions. Soyez bénis.